Bon, bonjour, donc je suis Patrick Levaillant, je suis médecin généraliste, coordinateur du réseau ASME 44, et très heureux de l'être, entouré d'une équipe qui est très très motivante, en commençant par Marie-Dominique Morisson, qui a accepté de venir avec moi pour présenter l'implication des médecins libéraux dans le réseau ASME. Elle partira juste après moi, je ne vais pas prendre trop de temps, parce qu'après je vais lui prendre son temps. Donc la création de ce réseau est en quelque sorte un prolongement naturel des écoles de l'asthme du CHU de Nantes, qui a commencé en 1996 en pédiatrie, puis ensuite en 2001 en pneumologie. Et ces initiateurs, qui sont en partie d'ailleurs dans la salle, ont trouvé tout de même que les patients des médecins libéraux pourraient bénéficier de cette démarche éducative qui semblait quand même bien correspondre aux besoins des patients. Pour cela, il fallait les impliquer, c'était ça un petit peu le but, dans le projet et constituer un réseau d'éducation ville-hôpital. Mais comment faire pour faire ça? Eh bien, il faut remplir ce dossier, un dossier régional, puisque c'est régional des réseaux, et qui a demandé pas mal de temps, qui est facile à dire, mais pas très facile toujours à faire, qui a demandé beaucoup de temps, à peu près un an et demi, pour que ça puisse être conceptualisé. Et encore, on était très aidés par l'URCAM, qui est notre financeur essentiel. Il fallait prendre en compte aussi le côté psychologique, et chercher un local qui soit en dehors de l'hôpital, c'est-à-dire en ville. Et donc, ce qu'on a fait, puisqu'on se trouve maintenant dans le centre de Nantes. Et le problème ensuite, c'était d'impliquer ces médecins libéraux et de provoquer un besoin qui, apparemment, n'était pas vraiment un besoin ressenti. Donc, il fallait faire surgir ce besoin. Alors, que proposer aux médecins? Proposer aux médecins, c'est un petit peu pas très, très difficile. C'est continuer à le soigner son patient. Simplement, le projet, c'était de lui faire remplir un petit peu, comme a été dit précédemment, un diagnostic éducatif dans la ligne de l'IPSEM. C'est-à-dire quand même une consultation, voire peut-être plus un entretien spécifique qu'on a tenu à rémunérer, comme vous le voyez ici, de façon assez bonne finalement, de façon à ce que le médecin et le patient puissent se rencontrer de façon longue et toujours en dehors d'une consultation de soins. Évidemment, ensuite, l'initiative éducative étant fait par le médecin, il assurait le suivi du patient. On en parlera un petit peu plus avec Marie-Dominique tout à l'heure. Alors, le problème, c'était de savoir qui on allait contacter, parce que c'est vrai aussi que réseau, éducation thérapeutique, c'est pas toujours très bien vu, qu'on a pu le voir dans les communications précédentes. Donc, on est allé chercher un petit peu dans les acteurs de la FMC, parce qu'on pense que ceux-là, c'est ceux de la FMI, puisqu'on sait que chez ces gens-là, en général, on trouve une réflexion et une pratique peut-être plus avancée que d'autres. Ça, c'est une position qui peut être discutée. Bon, on s'est introduit un peu dans les formations conventionnelles. On a même organisé des formations à l'éducation thérapeutique sous forme de 4 soirées sur la démarche éducative. Ça donnait un petit peu moins de succès. Et puis, bien entendu, on s'est reposé sur les médecins de l'école de l'asthme et sur leur expérience. C'était quand même très important. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On était prudent au départ. Si on dit finalement, ces médecins-là, ils ne savent pas qu'ils ont un besoin. Il faut quand même qu'on leur présente ça de façon... un petit peu, entre guillemets, commercial. Alors, on a organisé des soirées d'information, d'abord, sur le rôle du réseau. Alors, c'est un réseau, c'est qui s'en occupe, pourquoi faire, comment, etc. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Que leur propose-t-on? Et quels sont les avantages qu'ils pourraient en tirer par rapport à eux-mêmes, d'ailleurs, leur pratique, et aussi par rapport à la prise en charge de leurs patients? Un certain nombre, quand même, ont été intéressés par cette démarche-là et ont accepté de se former. Alors, la formation, on a essayé au départ, en 2005, on a dit finalement, ça serait bien quand même qu'ils se réfléchissent un petit peu sur leur représentation et leur croyance vis-à-vis de l'éducation du patient, parce que ça, c'était quand même intéressant de savoir. Et on a utilisé les méthodes qu'on utilise souvent chez nous, c'est le photolangage, qui a permis quand même à un certain nombre de médecins de se rendre compte de la situation. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on faisait une formation diagnostique éducative, qui est donc, comme vous le savez, le premier temps des démarches éducatives, et dans lequel on voulait absolument qu'ils s'impliquent. On fait ça sous forme de cas cliniques ou de jeux de rôle filmés. En 2006, simplement, on a diminué un petit peu nos prétentions. On a fait simplement une formation au diagnostic éducation, parce que ça prenait quand même beaucoup de temps. Et puis, c'est vrai qu'aussi que les médecins, qu'ils soient d'ailleurs généralistes, pneumologues, pédiatres, allergologues, on verra tout à l'heure, ne sont pas toujours, toujours très, très ouverts à des systèmes de réflexion personnelle comme ça en public. Alors que les patients le sont, plus facilement. Alors finalement, on a formé 53 médecins qui ont signé une charte, parce que ça, effectivement, on a quand même des financeurs qui nous demandent, il y a quand même un certain nombre de petites contraintes. Ils signent une charte, là, vous voyez ici le nombre qu'on peut avoir. Bon, il y avait un petit peu tout le monde, évidemment, il y a moins de pneumologues que généralistes, c'est tout à fait normal. Et puis, on a décidé également d'entretenir tout ça, parce que finalement, c'est vrai que si jamais on ne s'en occupe pas de façon régulière, c'est là que peut-être que mon rôle de médecin coordinateur peut avoir son intérêt, c'est d'essayer d'entretenir la flamme. Alors, dans ces conditions-là, on essaie d'organiser des formations continues. La dernière, il y a eu il n'y a pas très très longtemps, on a fait un consensus sur le diagnostic de l'asthme. Et comme on disait tout à l'heure, c'est tout à fait important que les éducateurs, les médecins éducateurs ou infirmières éducatrices, enfin, toute l'équipe éducatrice, aient le même langage que les médecins qui envoient le patient. C'est pour ça qu'il est intéressant de se mettre d'accord sur ce qu'on va dire, et notamment sur le plan d'action personnalisé écrit, qui est ce qu'on dit au patient lorsqu'il sort de l'éducation et en cas de crise d'asthme. C'est évident que si jamais en cas de crise d'asthme, et on s'appuie d'ailleurs bien sûr sur les recommandations de l'HAS, et qu'il est important qu'on vérifie bien que tous les médecins qui vont assurer le suivi de ces patients soient bien clairs par rapport à ça. Il n'y a rien de pire que d'avoir un discours différent comme dans un autre. Et puis, la dernière fois, on a fait, grâce d'ailleurs au CREDEPS, dont le directeur est dans nos rangs, on a fait un film par des professionnels de la session d'éducation thérapeutique qu'on fait chez nous. Marie-Dominique en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et ça a eu un impact absolument important, puisqu'ils ont quand même pu se rendre compte que l'éducation thérapeutique collective n'était pas une concurrence à l'éducation individuelle, mais un complément, on l'a déjà dit tout à l'heure, et je pense que c'est important qu'ils s'en rendent compte. Voilà. Et puis en même temps, on est quand même, là aussi, une aide du réseau, c'est-à-dire que c'est une aide du réseau qu'on essaie de faire assez régulièrement, qu'on diffuse par mail à tous ceux qui sont inscrits, qui font partie du réseau et de façon assez large. On a un petit site internet, mais qui ne fonctionne pas vraiment très très bien, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de s'en occuper. Et puis, alors, c'est toujours un petit peu la joie. Voilà l'équipe qu'on a et qui est incomplète. Ils sont tous passés à l'IPSEM et qui s'occupent des patients qui ont été repérés par les médecins traitants et qui sont passent ensuite au séance d'éducation collective. Je vais passer la parole à Marie-Dominique Morisson qui va vous parler de tout ça et des résultats. Voilà.
Alors, notre réseau est quand même un petit peu récent, donc je vais vous donner un petit peu le résultat de notre première année de fonctionnement. Avant de parler chiffres, on va peut-être situer le rôle du médecin du secteur libéral dans le parcours du patient, en fait. Donc, tout ce qui est visualisé sous forme carrée, en fait, c'est ce qui est réalisé par le médecin du secteur libéral. Et donc, en premier lieu, évidemment, le diagnostic éducatif, qui est réalisé en dehors d'une consultation médicale, au cours d'un entretien qui peut aller jusqu'à une heure très facilement, voire même un peu plus quand il faut interroger l'enfant et les parents. Et donc, cette consultation, comme l'a dit Patrick, est rémunérée par le réseau. Voilà. Donc ensuite, le patient vient en session d'éducation collective. Cette session d'éducation collective est animée par les médecins éducateurs en priorité que vous avez vu tout à l'heure sur les photos. À l'issue de cette session, on remet au patient un guide pratique où il va retrouver donc son contrat, mais aussi tout le parcours éducatif qui va du diagnostic éducatif aux consultations de suivi qu'on demande ensuite, plus les notions sur l'asthme et ses notes, bien évidemment. Donc, le suivi est assuré par le médecin du secteur libéral. Donc, on demande au patient de retourner voir son médecin qui avait fait le diagnostic éducatif dans les 3 à 6 mois. Et à l'occasion d'une consultation médicale, le médecin nous renverra une fiche de suivi qui reprend quelques items et qui va nous servir plus, nous, à l'évaluation de notre activité, c'est-à-dire le nombre d'hospitalisations depuis la session d'éducation collective, le nombre de crises d'asthme, la consommation de médicaments, etc. Donc, cette consultation n'est pas rémunérée par le réseau parce qu'elle a lieu sur le temps d'une consultation médicale. Par contre, un an après la session d'éducation collective, on renvoie un courrier aux patients et aux médecins, d'ailleurs, pour qu'il y ait une consultation de suivi un peu plus approfondie, mais de suivi éducatif. Hein, et cette consultation de suivi sera rémunérée par le réseau, pour le médecin, évidemment, parce qu'on considère qu'il doit passer, enfin, on estime à peu près un minimum de 30 minutes pour assurer correctement cette consultation de suivi, où on revoit en particulier le plan d'action personnalisé écrit et les compétences qui ont besoin d'être vues à cette occasion-là. Alors, ici, c'est le même parcours, mais donc avec une petite différence au niveau de la session d'éducation collective, parce qu'il s'agit des enfants. Donc, ils viennent sur 3 demi-journées espacées à peu près d'une semaine d'intervalle. Hein, c'est pour les enfants et les parents de jeunes enfants. Hein, c'est un petit peu la seule différence. Juste, je peux préciser sur la session d'éducation collective, si on a tenu à garder ces 3 demi-journées, c'est parce qu'elles sont structurées principalement. La première séance est consacrée à ce qu'on appelle, nous, le diagnostic éducatif collectif.
Il vous reste 4 minutes.
Oui, d'accord. La deuxième séance, plutôt à la mise en place des apprentissages. Et la troisième séance, apprentissage et évaluation. Donc voilà nos premiers résultats sur 2005. Donc, nous avions donc 53 médecins qui avaient adhéré au réseau AS, mais par contre, il n'y en avait que 24 à la fin de l'année qui avaient réalisé au moins un diagnostic éducatif. Et dans ces 24, on retrouve bien évidemment les médecins qui sont animateurs et éducateurs à l'occasion des sessions collectives. Nous avons accueilli 96 patients, mais sur 9 mois, parce qu'en fait, on a démarré qu'au mois de mars les sessions. Et les 66 représentent les sessions pédiatriques. On a beaucoup plus d'enfants que d'adultes, évidemment. Alors, ces 96 patients n'avaient pas tous eu un diagnostic éducatif. Comme vous pouvez le voir, il n'y en avait que 72. Le déficit s'explique un peu par la mise en route des premières sessions d'éducation au réseau où la démarche du diagnostic éducatif n'avait pas été intégrée par tous. Et c'est ce qui explique un petit peu qu'il manquait beaucoup de diagnostics éducatifs avant l'éducation collective. Et sur les 3 à 6 mois, puisqu'on ne peut pas faire tout à fait encore le suivi à un an, vous voyez que là encore, il y a, on va dire, un déficit, puisque nous ne récoltons que 55 suivis, alors qu'on aurait pu espérer avoir au moins les 72 comme les diagnostics éducatifs. Alors, pour détailler un petit peu sur ces 72 diagnostics éducatifs qui ont été faits, vous remarquez que la plus grande partie est faite par les médecins éducateurs, donc ceux qui animent les sessions, en fait. Et que nous aussi, c'est-à-dire Patrick et moi-même, réalisons quelques diagnostics éducatifs quand les patients souhaitent venir, mais n'ont pas de médecin qui adhère au réseau. Mais c'est aussi l'occasion pour nous d'informer le médecin du souhait du patient de participer à l'éducation collective et que lui peut aussi, s'il est intéressé, adhérer au réseau. Alors, bon, un petit graphique pour représenter un petit peu tout ça, le diagnostic éducatif et le suivi, où on voit justement la partie un peu plus importante des médecins impliqués dans le réseau. Alors, en 2006, ce qui change, c'est que on a un nombre quand même croissant de médecins qui adhèrent au réseau. Et ce qui est nouveau aussi, c'est que de plus en plus, on a des inscriptions spontanées. C'est-à-dire que les médecins ont entendu parler de l'éducation thérapeutique ou ont entendu parler du réseau AS et souhaitent s'investir dans ça. Donc, ils nous appellent pour demander comment il faut faire, comment on peut s'inscrire, comment on peut se former. Et certains ont même adhéré suite aux sollicitations de leurs patients qui voulaient à tout prix que leur diagnostic soit réalisé avec leur médecin traitant. Donc, ça aussi, c'est assez nouveau. Alors, notre nombre de patients croît, évidemment, et on espère bien atteindre 130 patients à la fin de l'année. Alors, on ne peut pas faire un comparatif 2005-2006 sur une année, mais si on prend les 6 premiers mois de 2006, nous avons eu 70 diagnostics d'éducation réalisés pour 72 patients. Donc, vous voyez qu'en règle générale, il n'y a très peu de patients qui viennent en session d'éducation collective sans avoir réalisé son diagnostic éducatif. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et pour nous, on ne peut plus travailler non plus sans les diagnostics éducatifs. Et ce qu'il y a de nouveau aussi sur ces 6 premiers mois, c'est que la part des diagnostics éducatifs réalisés par les médecins adhérents est de 52%, alors que je vous rappelle que tout à l'heure, ils étaient plus de 40 et quelques pourcents, je ne sais plus. et que nous-mêmes, permanents du réseau, nous réalisons un petit peu moins de diagnostics éducatifs, parce que de ce fait-là, ils sont réalisés beaucoup plus par les médecins. Donc voilà un petit peu le comparatif 2005-2006 avec des proportions qui s'inversent entre les médecins adhérents et les médecins impliqués. Et puis une diminution des diagnostics réalisés par les permanents. Alors en conclusion, donc effectivement, on a l'impression quand même qu'on a une montée en charge progressive tant au niveau des médecins qu'au niveau des patients. 130 patients, c'est insuffisant parce que l'URCAM nous demandait de faire quand même 150 patients par an. Actuellement, on est en projet pour travailler avec d'autres professionnels de santé et en particulier avec les pharmaciens qui ont demandé à adhérer au réseau et qui sont en train de réaliser un travail pour justement prendre part tout à fait à l'éducation thérapeutique des patients asthmatiques en Loire-Atlantique. Et nous travaillons également avec les médecins scolaires de la ville de Nantes pour réaliser des sessions d'éducation collective dans des écoles de ZEP, là où les familles ne viennent pas au réseau asthme. Voilà, et comme beaucoup d'exposés avant, j'espère que notre réseau sera pérennisé, mais on garde toujours une petite inquiétude. Merci.